Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour et bienvenue à vous, fidèles auditeurs du débat BBC Afrique, Africa Radio. C'est un plaisir particulier de vous retrouver pour le dernier numéro de votre émission pour cette année 2020 qui s'achève. Un plaisir aussi de partager une fois de plus ce micro avec vous, Liliane. Bonjour.
Bonjour, Saint-Ish Mantar Tomté. J'ai le plaisir de vous annoncer que je vous enverrai votre cadeau de Noël, puisque vous célébrez cette fête, dès la fin de cette émission. Mmh. Et nous allons commencer notre menu de cette semaine entre campagne de vaccination annoncée et deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Quelle voie pour l'Afrique en 2021? L'administration des premiers vaccins anti-Covid est prévue au deuxième trimestre de l'année prochaine. Mais quelle sera l'attitude des populations en Afrique méfiantes face à ces vaccins dès les premières annonces?
L'Afrique, dans un statut plutôt d'observateur, pourrait être réduite à commander les doses de ses vaccins et à ne se contenter que de ce qui lui sera attribué dans le cadre du COVAX, vous savez, cette initiative mondiale qui devait garantir l'accès équitable aux vaccins. Nous ferons le débat, Liliane.
En Côte d'Ivoire, quelle chance pour le dialogue politique après la nomination de Konan Kwadio-Bertin Dikakabé à la tête du nouveau ministère de la Réconciliation nationale. Ce dissident du PDCI d'Henri Konan Bédié, seul adversaire d'Alassane Ouattara, la dernière présidentielle toujours contestée, a-t-il des atouts pour concilier des points de vue divergents?
Kakabé, qui a été crédité de 1,99% des suffrages lors de cette présidentielle, alors que certains médias locaux parlent de récompense pour celui qui a joué le rôle de l'opposant, selon leurs mots, l'ancien candidat lui a déclaré qu'il fallait accompagner le président Ouattara qui est dans une dynamique de paix. Seulement, est-il un atout ou un handicap pour l'apaisement du climat politique? Les débats à suivre.
Quelle perspective sécuritaire pour l'Afrique en 2021 après de nombreuses attaques qui ont ciblé cette année de plus en plus d'écoles? L'Union africaine avait pourtant lancé l'initiative « Faire taire les armes en Afrique » à l'horizon 2020. On semble donc loin du compte, Saint-Ish.
Boko Haram en Afrique de l'Ouest, les groupes armés au Cameroun ou encore en RDC, Liliane, le continent est toujours aussi exposé aux différentes menaces terroristes. Si le premier semestre 2020 a été relativement moins meurtrier, les groupes armés islamistes ont repris du service depuis quelques mois, multipliant les attaques, laissant craindre un regain de violence l'année prochaine. Comment y faire face? Voilà la question. Les analyses et commentaires de nos invités à suivre dans le débat, mais avant le panel avec vous, Liliane.
Et notre plateau de cette semaine est composé du docteur Safietou Thiam, ancienne ministre de la Santé du Sénégal. Elle est en ligne de Dakar. Bonjour, docteur Thiam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Deux journalistes sont également avec nous. Félix Bonny, éditorialiste en Côte d'Ivoire. Bonjour, Félix Bonny.
Bonjour, Liliane.
Et à Dakar, René Massiga Diouf, journaliste, docteur en sciences politiques. Bonjour, René.
Bonjour Liliane.
Nous allons vous proposer une brève biographie de notre invité, docteur Safietou Thiam. Vous êtes secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre le sida au Sénégal depuis 4 ans, ancienne ministre de la Santé publique, médecin spécialiste en santé publique et maladies infectieuses, expert aussi VIH-Sida depuis plus de 20 ans. Vous êtes titulaire, docteur Thiam, en médecine, d'un doctorat en médecine de l'Université de Dakar, titulaire aussi d'un master en sciences de contrôle des maladies de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, c'est en Belgique, et d'un master en santé publique de l'Institut Santé et Développement de l'Université de Paris 6, ici en France. Vous êtes aussi, docteur Thiam, ancienne conseillère nationale du système des Nations Unies pour le VIH et du groupe thématique ONU-SIDA-OPNUD à Dakar. Saint-Ish, je vous passe donc le micro pour le premier sujet.
La deuxième vague de Covid-19 annoncée a été confirmée dans plusieurs pays africains, notamment avec des chiffres qui inquiètent, le Maghreb en première ligne, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda. Au Sénégal ainsi qu'au Mali, les autorités appellent à redoubler de prudence et à la responsabilité. Et conséquence, de nouvelles mesures restrictives ont été réintroduites, tout comme dans l'espace UE, où les pays sont en attente de l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments. médicaments pour lancer les campagnes massives de vaccination. Aux États-Unis, cette campagne a commencé depuis quelques jours. Alors, ces derniers développements inquiètent l'OMS qui met en garde contre ce qu'il a appelé le nationalisme vaccinal face à la pandémie de Covid-19. Le secrétaire général des Nations Unies a d'ailleurs plaidé pour que les vaccins anti-Covid soient considérés comme un bien public mondial, une proposition portée par l'Afrique du Sud et l'Inde. Et l'Afrique alors, serait-on tenté de dire, comment se prépare-t-elle pour cette phase de la lutte contre la pandémie de Covid-19? Ça sera le débat. Mais avant d'aborder la question de façon générale, Madame la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal, je voudrais vous demander peut-être un mot sur l'impact du Covid-19 sur la lutte contre le sida au Sénégal.
Merci pour votre question. Comme pour tous les programmes de santé et comme tous les aspects du système de santé, la COVID a largement impacté les services, la disponibilité des services, c'est normal. Les médecins qui soignent la COVID sont les mêmes médecins qui devaient soigner le VIH-SIDA. Les personnes vivant avec le VIH, qui sont souvent des personnes très vulnérables, très exposées aux infections, étaient particulièrement vulnérables. Nous avons dû nous organiser pour donner les traitements sur 3 mois, 6 mois, demander aux patients d'appeler plutôt que de venir à l'hôpital. Alors, les associations de personnes vivant avec le VIH se sont mobilisées au Sénégal pour accompagner leurs pères qui étaient infectés de la COVID ou qui étaient isolés. Quand on a fait le couvre-feu, certains devaient rester là où ils travaillaient et devaient ne plus quitter. Donc, il fallait leur amener les médicaments.
Il a donc fallu s'adapter à cette pandémie.
Oui, exactement. Nous avons dû donc élaborer une stratégie d'adaptation pour continuer à travailler. Mais il est clair que comme tous les secteurs de la santé, la COVID a largement impacté.
Alors, revenons sur le débat actuel qui est le débat sur le vaccin, les vaccins plutôt, puisqu'on en a plusieurs qui sont en essai. Docteur, on parle de course au vaccin. À mon avis, c'est justifié, mais ce n'est que mon avis. Vous êtes l'experte. Est-ce qu'on se précipite?
Non. Je pense qu'il faut comprendre qu'en période d'urgence, il faut effectivement innover. Et si l'innovation, c'est justement raccourcir les délais pour fabriquer les vaccins, moi, je ne fais qu'applaudir. Nous faisons confiance à la science. Les vaccins ont réglé beaucoup de problèmes. Moi, je suis tentée de dire que si Pasteur attendait toutes ces phases vaccinales, il n'allait pas vraiment découvrir le vaccin de la rage. Il a dû le donner à un enfant en espérant que ça marche et ça a marché. Nous sommes dans une urgence sanitaire et c'est ce que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, la COVID va encore rester et peut-être continuer à impacter le monde, pas seulement au plan de la santé, on a vu aussi les économies et les répercussions plus tard encore sur la santé qui est déjà très, très fragile. Je pense que la solution pour régler le problème de cette pandémie, en tout cas le vaccin est une des solutions pour régler, si ce n'est pas la principale solution pour régler le problème de COVID-19.
Avant de passer la parole à Lilia, je voudrais quand même souligner que les inquiétudes sont en Afrique s'appuient sur le fait qu'on a des pays riches qui, eux, sont accusés de s'accaparer les doses des vaccins. De l'autre côté, on a l'industrie pharmaceutique qui, elle, ne penserait qu'à ses bénéfices dans ce débat sur les vaccins. Et on se demande, et l'Afrique alors, on observe, on prend ce qu'on nous donne?
Non, vous savez, ce débat-là, nous l'avons déjà eu dans les débuts des années 90 avec l'accès aux médicaments antirétroviraux pour soigner le sida. Effectivement, et là même, les malades étaient en Afrique, en tout cas au sud, et les médicaments étaient au nord. Mais il y a eu une coalition mondiale qui s'est mise en place. Et je pense que c'est là où on doit en venir. Moi, je suis convaincue qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de vaccination de masse, comme ils sont en train de le faire dans les pays qui pensent avoir les moyens de faire des vaccinations de masse. Mais il nous faut une stratégie bien ciblée. Il nous faut définir en Afrique qui doit être vacciné, qui seront les cibles des vaccins. Est-ce que c'est les personnes les plus vulnérables? Est-ce que c'est les personnes d'une certaine tranche d'âge? Est-ce que c'est une certaine catégorie professionnelle comme les médecins, ceux qui sont en tout cas exposés à la COVID, au coronavirus, qui devraient être vaccinés? Donc, en santé publique, c'est ce qu'on dit. La politique de santé publique, c'est prendre des décisions quand les ressources sont limitées. Donc, en Afrique, nous devons prendre ces décisions. Et cette stratégie, personne ne va l'écrire à notre place. C'est à nous de dire, c'est comme ça que nous allons dérouler notre stratégie de vaccination. Maintenant, une question, je veux venir à une question qui est importante, c'est qui doit payer. Et je suis aussi convaincue que ce n'est pas à nos pays seuls de payer les vaccinations, y compris les vaccinations des Africains. Aujourd'hui, le monde a un accès aux antirétroviraux, c'est un domaine que je connais bien, mais c'est parce qu'il y a eu une société civile, il y a eu une opinion publique qui s'est mobilisée pour que, d'abord, que les laboratoires diminuent les prix, que ces prix soient accessibles. Il y a eu un programme Access pour baisser les prix, donc il faudrait ressortir ce genre de choses pour qu'il y ait un accès équitable à ces vaccins, et il faut une coalition mondiale
Docteur Thiem, pardonnez-moi de vous interrompre. Avant de parler et de répondre à la question que vous venez de poser, qui va payer, c'est vrai que Saint-Tiche parlait de l'initiative COVAX tout à l'heure. Il y a des préoccupations que les Africains ont. Vous parliez tout à l'heure de ce que l'innovation, si elle peut permettre de raccourcir les délais, tant mieux. Mais sauf que cette rapidité avec laquelle ces vaccins ont été mis en place suscite plutôt des interrogations, voire une suspicion et même une extrême prudence des Africains.
Vous savez, ce scepticisme vis-à-vis du vaccin, ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas né en Afrique. C'est venu, je pense, de la Grande-Bretagne. Il y a eu un scepticisme, il y a des vaccino-sceptiques depuis tout le temps. Et ces gens-là, effectivement, ont utilisé cette brèche de « le temps était trop court, c'est un vaccin à ARN ». Il y a tellement de fausses rumeurs. Nous y travaillons aussi au Sénégal. Il y a un centre de recherche également avec des anthropologues qui essaient d'analyser tous les faux messages que nous recevons sur les vaccins.
Mais ce sont les experts eux-mêmes. Je prends le cas de la France ici, c'est même le monsieur vaccin qui lui-même a exprimé des inquiétudes.
Il y a des gens qui ne savent pas sortir du cadre. C'est-à-dire, ils ont été formés dans un cadre où on dit pour un essai vaccinal comme thérapeutique, hein, il faut 4 phases. Maintenant, ces phases-là vont durer telle. Mais maintenant, si, comme je l'ai dit au début de mon propos, avec l'innovation, on peut raccourcir certaines phases. Parce que simplement, on est, pour moi, dans une urgence sanitaire où il faut trouver des vaccins pour protéger les populations. Je pense que on peut effectivement accepter d'utiliser ces vaccins. Donc moi, en tout cas, je ne suis pas du tout sceptique vis-à-vis du vaccin. Je pense,
d'autres experts africains ne partagent pas votre point de vue en estimant aussi que l'Afrique n'a pas nécessairement besoin de ces vaccins au regard du fait que l'Afrique a moins de cas que les autres régions du monde et des cas asymptomatiques.
Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. On ne peut pas tout généraliser et tout mettre dans un même moule, dire l'Afrique n'a pas besoin. Il y a des parties de l'Afrique qui sont plus atteintes que d'autres. Il y a des groupes de population en Afrique qui sont plus atteintes que d'autres. Il y a des personnes quand même en Afrique qui sont mortes de la COVID-19. Donc, on ne peut pas généraliser parce que justement pour cette pandémie, Dieu nous a protégés. L'Afrique a été moins atteinte. On a eu moins de malades graves. On a eu moins de décès. Mais ce qu'il faut dire, c'est que certainement, on a eu un très grand taux de décès parmi les personnes qui ont développé des formes graves. Parce que nos systèmes de santé ne sont pas très fortes pour prendre en charge des cas très graves. Donc, ça reste quand même une maladie grave. Ça reste une maladie grave en Afrique parce que ça mobilise le peu de personnel de santé que nous avons. Ça Merci. Mobilise nos systèmes de santé qui sont déjà fragiles. Et donc, cela augmente la vulnérabilité des patients vis-à-vis des autres maladies.
Merci,
et donc,
Oui, merci, docteur. Nous allons revenir peut-être plus tard sur les systèmes de santé en Afrique, justement. Nous allons prendre, Liliane, l'avis de nos confrères qui sont avec nous. Je vais commencer par Félix Boni. Félix, depuis Abidjan. Félix, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Oui, votre analyse sur tout le débat qu'il y a autour des nombreux vaccins en essai et l'annonce de ces vaccins prochainement en Afrique. Quel est votre ressenti, vous ?
Justement, quand on regarde un peu la mobilisation avec laquelle l'Europe, les autres continents se battre pour trouver le vaccin contre la COVID-19, une pandémie qui s'est déclarée il y a moins d'un an. En Afrique, on se sent quand même un peu frustré parce que lorsqu'on regarde le taux de prévalence du sida et les ravages que le sida a eu sur notre continent pendant des décennies, et que pendant toutes ces décennies, il n'y a pas eu de vaccin, de mobilisation pour trouver un vaccin contre le sida qui a fait des ravages sur notre continent, et que pour une fois qu'il y a une maladie qui touche l'Europe systématiquement, il y a une mobilisation générale, on a l'impression de vivre sur deux planètes différentes où il y a des...
Mais est-ce que ce n'est pas légitime, Félix ? Est-ce que ce n'est pas légitime au vu des morts comptées en Europe, aux États-Unis, en Amérique globalement ?
Justement, devrait-on dire qu'un mort en Europe ou en Amérique est mieux qu'un mort en Afrique ? Évidemment, c'est de ça qu'il s'agit, parce que évidemment, quand il y a un mort en Europe, c'est du scandale, mais lorsqu'il y a 10 morts en Afrique, c'est comme si c'est encore très peu pour qu'on puisse compter un mort. Et ça va de soi que les gens ils se mobilisent pour des vaccins parce que quand il y a un mort chez eux, ça fait plus mal qu'un Africain qui meurt.
Merci.
Et du coup, là-bas, on se mobilise pour des vaccins. Et en Afrique, et ce vaccin, parlons même de ce vaccin, je crois qu'il y a aussi qu'il y a très peu de morts en Afrique par rapport à la COVID et qu'on arrive quand même à se guérir.
Merci,
et l'Afrique devait se mobiliser pour contenir cette maladie que d'attendre des vaccins de l'Europe.
Merci beaucoup, Félix. Alors, René, vous êtes là, vous m'entendez ?
Oui, je
voilà.
vous entends.
Vous venez d'écouter l'avis de Félix qui estime que oui, le sida fait plus de morts et on n'a toujours pas de vaccin. Est-ce que finalement, ce COVID-19, cette épidémie ne devrait pas être une chance pour l'Afrique de trouver ses propres moyens, ses propres réponses à ce type de tragédie sanitaire ?
Oui, moi je crois qu'il y a eu un temps où le sida avait mobilisé une certaine opinion internationale et des experts aussi à ce niveau pour qu'un vaccin soit trouvé le plus rapidement possible. On a, jusque-là, les gens sont en train, même si au niveau de la médecine, on a pu trouver des choses qui puissent permettre un peu de prendre en charge certains aspects liés à cette maladie, il y a toujours quand même que la maladie existe et qu'on n'a pas encore les moyens d'y faire face de manière frontale et de manière radicale. Alors, ça fait plusieurs années quand même que les recherches continuent sur le sida, mais jusqu'à présent, on n'en est pas au bout de nos
peines. Mais concernant le Covid, on attend tout, on est en train d'attendre les vaccins de manière fébrile sur le continent. Est-ce que on ne devrait pas tirer les leçons de cette épidémie pour se dire désormais il faudrait que l'Afrique elle-même cherche ses réponses face
Absolument,
à ce type
venais.
De situation.
Oui. oui, j'en venais, parce qu'au niveau africain, de plus en plus, on peut se dire que nous avons les experts qu'il faut, quand même pour faire en sorte de trouver dans les délais impartis un vaccin pour faire face à une telle ou telle autre maladie.
Merci beaucoup, Félix. Merci, René. René, je me permets de vous interrompre quelques secondes. Nous devons prendre la pause. Nous continuons juste après.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ismantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Suite du débat BBC Afrique Africa Radio avec nos invités cette semaine. Notre grand témoin est Dr Safietou Thiam, ancienne ministre de la Santé du Sénégal. Deux journalistes nous accompagnent, René Massiga Diouf, journaliste et docteur en sciences politiques, et Félix Boni, journaliste éditorialiste à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com, puis nous faire part ensuite de vos observations sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. On va poursuivre Saint-Tige notre débat en laissant René terminer ses propos. Nous avons dû l'interrompre pour la pause.
Oui,
oui, je disais concernant la COVID-19, c'est que c'est une maladie quand même qui est arrivée et qui peut laisser penser, par exemple, que dans le domaine de la médecine, il n'y a pas un seul pays où bien les experts n'étaient pas prêts. Moi, je crois que c'est le premier constat qu'on peut faire, et on l'a vu, c'est pas seulement l'Afrique qui est confrontée à cet inconnu, mais aussi les autres continents qui peuvent être considérés comme ayant les plateaux médicaux les plus élevés. Donc la COVID est là, le coronavirus, il y a des pays qui essaient un peu de faire en sorte de prendre en charge la maladie en anticipant même sur probablement des moyens qui puissent permettre de juguler ou en tout cas de freiner la propagation rapide, mais on n'en est pas encore à des niveaux où on peut se permettre d'avoir espoir que du jour au lendemain on peut avoir des vaccins. Mais votre question tout à fait légitime. Oui. Excusez-moi.
Terminez vos propos s'il vous plaît très rapidement.
Oui, je disais que votre question est tout à fait légitime. Nous en Afrique, on peut se prévaloir d'avoir énormément, on peut s'enorgueillir même d'avoir les experts qu'il faut et qui interviennent au niveau des sommités mondiales les plus importants, au niveau des instances les plus importantes au niveau international, en termes d'anticipation, mais aussi en termes de lutte contre certaines pandémies. Et qu'en Afrique, on n'en soit pas à des niveaux où on peut espérer avoir un vaccin pour le coronavirus, alors que la propagation est en train de prendre des niveaux assez intéressants. Je crois qu'il y a lieu effectivement poser des questions.
Saint-Tiche, je vous laisse la parole.
Allez-y.
Je voulais juste que le docteur, on revienne un peu sur ces vaccins. On en parle beaucoup pour l'année prochaine. Certains pays occidentaux ont même commencé à administrer les 10 vaccins. Et en Afrique, le roi du Maroc a déclaré, sans donner une date précise, qu'il y aura une opération massive de vaccins dans son pays. Sur quelle base, docteur Thiam, l'Afrique devrait-elle choisir celui ou ceux à administrer sur le continent?
Merci. Mais je voudrais juste, avant de répondre, dire qu'il n'y a pas une comparaison possible entre le vaccin contre le sida qui est toujours en recherche et le vaccin contre la COVID-19. C'est deux virus complètement différents. Le virus du sida est un virus qui mute beaucoup, donc je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques. Il y a la recherche, mais c'est difficile de trouver un vaccin pour le sida, qui est un virus beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus intelligent et qui s'adapte au corps humain. Et vous voyez que vous pouvez être infecté par le sida et tomber malade 10 ans après ou 15 ans après, alors que pour la COVID, on parle de 7 jours à 14 jours. Donc c'est un virus plus virulent, plus bruyant, qui va donner tout de suite des symptômes. Et c'est pour ça que le monde va se mobiliser et qu'il aura le dessus sur le coronavirus.
Les critères de choix de vaccins, puisqu'il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs, mais je voudrais vous dire que je pense que scientifiquement, ces vaccins se valent. On parle d'efficacité à 89, 90, 92%. Au plan général, il n'y a pas une grande différence entre cela. Je pense que ça, c'est des stratégies commerciales et il ne faut pas entrer dans le jeu des laboratoires. Moi, je suis convaincue que l'OMS, par exemple, dans la stratégie, le rôle de l'OMS, c'est de préqualifier des vaccins, de dire que c'est tel vaccin qui peut être utilisé. Il n'y a pas un vaccin qui soit plus efficace sur l'Africain ou sur l'Arabe ou sur le Blanc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans la stratégie, qui vacciner, comment vacciner, quel vaccin utiliser, on peut, par exemple, choisir des critères comme des critères de de
comorbidité
de l'habilité du vaccin, parce que il y a par exemple le vaccin de Pfizer qu'il faut garder à moins 70 degrés, ça veut dire qu'il faut avoir partout des congélateurs à moins 70 degrés. Il y a des vaccins qu'on peut garder à l'air libre. Ces vaccins vont plus s'adapter dans notre contexte africain. Il faut déterminer quelle est la cible. On a vu qu'en France, ils vont certainement vacciner le troisième âge, etc. Donc nous allons, sur la base de notre épidémie aussi, sortir les populations qui seront ciblées, en tout cas qui seront les plus prioritaires pour le vaccin, pour vraiment les protéger. Et parmi ces populations, c'est les populations qui ont une comorbidité, comme le diabète, l'hypertension, etc. C'est les patients d'un certain âge, plus de 60 ans. C'est des patients, c'est le personnel médical qui est en contact avec les malades.
Oui, qui seront en première ligne. Oui, justement, on a juste quelques minutes pour conclure sur ce premier sujet. Docteur Tiam, vous semblez très confiante, vous l'avez dit, vous êtes confiante dans cette stratégie de vaccin, mais sur le continent, la méfiance, comme Liliane l'a dit, est toujours de rigueur. Comment amener les populations africaines à accepter le vaccin quand il sera disponible?
C'est ça l'enjeu en Afrique. Vous savez, dans cette stratégie, la communication va jouer un très, très grand rôle. Et c'est une communication qui ne sera pas facile. Vous en conviendrez, vous êtes des spécialistes de la communication, parce qu'il faut déjà aller contre les fausses croyances. Déjà, en Afrique, nous avons nos représentations qui font que on ne peut pas, je pense que dans nos représentations, on ne se représente même pas le vaccin. Donc le vaccin est difficilement acceptable dans notre contexte. Il faut aller contre cela. J'avoue que c'est...
Justement, face à cette réticence, en quelques mots, madame, ne devrait-on pas privilégier aussi les pistes de traitement? Certains pays africains en ont proposé, comme le Madagascar et d'autres pays encore. Ne faut-il pas travailler d'arrache-pied sur le traitement autant qu'on l'a fait pour les vaccins?
C'est aussi en Afrique qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si on peut prévenir ces maladies, vous savez, la COVID-19 fait beaucoup de ravages dans le corps. Ce n'est pas une simple grippe, ce n'est pas une grippette comme on le disait au début. Ça commence par une grippe, mais après ça devient une maladie du sang qui atteint d'autres organes, qui quand même fait beaucoup de dégâts, qui tue des gens. Donc moi, je préfère qu'on prévienne cette maladie plutôt que d'attendre qu'elle soit là pour chercher à la guérir.
Merci docteur Safietou Tiam. Liliane,
une pause, Saint-Tiche.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et avant d'attaquer notre deuxième sujet, je vous donne le plateau de notre émission de cette semaine. C'est Dr Safietou Tiam, ancien ministre sénégalaise de la Santé, qui est notre invité cette semaine. Le journaliste ivoirien Félix Boni, éditorialiste, est en ligne d'Abidjan et en ligne de Dakar au Sénégal. René Massiga Diouf, journaliste et analyste politique également. Vous pouvez écouter cette émission ou la réécouter autant que vous voulez sur africaradio.com et bbcafrique.com. Cap donc sur la Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale pèse désormais sur les épaules de Kouadio Konan Bertin Dikakabé. C'est à ce transfuge du PDCI que le président Alassane Ouattara, investi cette semaine pour son troisième mandat et toujours contesté par l'opposition, a confié le tout nouveau ministère de la réconciliation. La mission de celui que les Ivoiriens désignent par ses initiales Kakabé est d'unifier filles et fils de la Côte d'Ivoire. Première question pour vous, Félix, à Abidjan. La nomination de Kakabé vous a-t-il surpris? Est-ce qu'il a l'étoffe du pacificateur que les Ivoiriens attendent?
Sa nomination en tant que ministre ne surprend guère parce que cela semblait se décider depuis très longtemps, depuis qu'il s'est jeté dans l'arène pour être candidat challenger du président Ouattara qui a été réélu.
Le seul à être allé aux élections, affronter Alassane Ouattara.
Le seul à être allé aux élections et à avoir récolté 1,99%. On savait déjà sa nomination que ça allait se faire. Par contre, sa nomination au poste de ministre de la Réconciliation, ça étonne tout le monde, sauf certainement ceux qui l'ont choisi à ce poste. Parce que très peu d'Ivoiriens croient à la capacité de M. Kouadio Konan Bertin de pouvoir véritablement mener à bout ce chantier de la réconciliation. Et je ne pense pas qu'il ait suffisamment le temps pour mener la réconciliation, qui est quand même un chantier très, très possible en Côte d'Ivoire.
Saint-Tiche?
Oui. Alors, le gouvernement ivoirien dit que les populations ivoiriennes, notamment, n'ont pas de problème à cohabiter. Je pense que c'est le ministre ivoirien de la construction, Conan Bruno, qui l'a affirmé. Alors, on se demanderait pourquoi un ministère de la réconciliation, alors?
Justement, vous répondez à la question que vous posez. Et c'est ça aussi qui fait que la réconciliation ne peut pas aboutir en Côte d'Ivoire, parce que on le voit avec la réalité, la vérité. La réalité, c'est que la population ivoirienne est très, très, très divisée, profondément divisée, parce qu'on a une classe politique qui est elle-même basée sur des stratifications tribales et ethniques, voire régionales. Et du coup, si on a Mabritoakus à l'ouest qui n'a des députés que dans sa zone, et donc des populations qui se reconnaissent en lui dans sa zone, Henri Konan Bedie au centre, à Fingessa dans un autre camp, et Laurent Gbagbo ailleurs, et Alassane Ouattara qui a plus de partisans au nord, comme Guillaume Soro dans une autre partie du nord. Vous comprenez que si on dit que les populations ivoiriennes sont réconciliées, c'est du faux, parce que chacun se reconnaît plus ou moins dans sa région derrière, se range sa ligne derrière un leader politique.
Mais dans ces conditions, Félix, quels doivent être les moyens, quels sont les atouts de KKB pour pouvoir réussir à réunir toute cette classe politique telle que représentée, telle que vous venez de représenter?
Pour vous dire vrai, pour ce que moi je pense qu'il n'a aucun atout pour réussir ce chantier. C'est pourquoi je suis surpris qu'il ait à ce poste, parce que monsieur...
Donc vous dites que vous voulez dire qu'il va forcément échouer?
Non, pas forcément échouer. J'attends de le voir opérer le miracle, parce que lui-même, il devient protagoniste dès l'instant que toute cette classe politique que je viens de citer pense qu'il a trahi, il a trahi en étant candidat, pour ne pas permettre à un dialogue sincère d'aboutir pour aller à des élections véritablement inclusives, parce que sa candidature aura permis d'exclure, ou pour ne pas dire d'aboutir à des élections auxquelles les autres n'ont pas participé, alors qu'ils s'attendaient à un dialogue pour pouvoir aller à des élections plus inclusives.
Permettez-moi, Saint-Tiche, s'il vous plaît, de poser cette dernière question à Félix. Alors, vous êtes en train de dire que l'UME est un acteur, mais celui qui l'a nommé avait forcément ses informations. Est-ce que du coup... Enfin, on voit que vous vous en prenez, ou bien vous vous méfiez un peu de celui qui est nommé à ce poste plutôt que de celui qui l'a nommé.
Non, et là vous me mettez encore plus à l'aise, parce que je l'aurais dit. Cela m'incline à dire que celui qui l'a nommé certainement ne fait pas de la réconciliation véritablement une grande préoccupation, alors que son discours avait rejeté beaucoup d'Ivoiriens, parce que sinon ce n'est pas M. Bertin Kouadio-Kouran qui l'aurait nommé, à moins qu'il l'ait envoyé à l'abattoir pour éventuellement le griller plus tard. Mais je pense que la nomination de KKB ne veut pas dire qu'on veut vraiment la réconciliation.
Mais Félix, vous avez expliqué les conditions, en tout cas le climat politique actuel, vous avez bien expliqué la répartition derrière les différents leaders politique en Côte d'Ivoire. Si KKB n'a pas l'étoffe, quel profil aurait pu réussir cette mission de réconciliation nationale? Est-ce qu'il y a véritablement quelqu'un, un profil qui aurait pu faire adhérer les positions politiques en Côte d'Ivoire?
Absolument, Liliane.
Saint-Tiche.
Il y a un profil qui peut permettre de réussir cette réconciliation, qui doit être tout sauf un des acteurs politiques. Ça peut être un religieux, ça peut être un chef traditionnel, ça peut être une autorité traditionnelle, une personnalité de la classe, une personnalité de la société civile, un artiste, un footballeur, je pourrais discuter
tout
par
sauf
exemple
un,
quelqu'un.
Tout sauf un politicien,
sauf
c'est ce que vous voulez dire.
Un acteur politique, parce que les acteurs politiques ont tous des antécédents.
Ils sont grillés.
Les uns envers les autres. Oui,
par contre, il y a un analyste politique que nous avons interviewé cette semaine qui évoquait le nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qu'il aurait pu être un bon ministre de la réconciliation.
Je suis d'accord avec vous, monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, fait partie de ces rares acteurs politiques qui n'ont pas de soucis avec qui que ce soit, qui n'a pas d'antécédent avec quelqu'un et qui a une dimension vraiment nationale, non tribale, et qui casse facilement toutes les barrières. Je suis d'accord avec cette
analyse ivoirienne.
Et d'ailleurs, lorsque monsieur Ouattara était candidat à un troisième mandat, moi qui fais partie de ceux qui pensent qu'il n'avait pas besoin d'un troisième mandat, je dis, mais dans son parti, il avait quelqu'un comme Ahmed Bakayoko qui avait la possibilité de transcender tous les clivages pour devenir un président de la République, parce que le chantier de la réconciliation est un chantier tout entier dont le nouveau président de la République a besoin.
Mais alors Félix, je suis tenté de vous dire que la mission ne semble pas aussi impossible que cela. Ahmed Bakayoko est Premier ministre, le président Ouattara a dit qu'il l'a instruit pour reprendre les discussions avec les partis politiques. Il pourrait coacher Kakabé pour cette mission.
Il faut que Kakabé ait la possibilité d'accès à ces personnalités vers lesquelles il serait amené à partir, d'autant plus que ces personnes sont braquées aujourd'hui contre à Kakabé. Je vois Kakabé avoir accès facilement à Rikona Bédié ou à Fingessa, et peut-être, pourquoi pas, même à Laurent Gbagbo et autres qui sont ailleurs, qui avaient accès auparavant.
Oui, on écoute. René, vous êtes là ?
Oui.
Quelle est votre analyse de cette nomination de Kakabé au tout nouveau ministère de la Réconciliation ? Félix semblait dire que le choix porté sur Kakabé n'est pas le bon et qu'il pourrait ne pas réussir cette mission au regard de son profil et de son profil politique.
Moi, je ne serai pas aussi catégorique. Kakabé, moi, je l'ai suivi un peu pendant la campagne électorale. Je crois qu'il fait partie des rares candidats à avoir proposé quelque chose de très concret, vraiment en termes de lutte contre le coronavirus, la COVID-19, sur la diplomatie et sur d'autres questions. Alors, le jeu politique, il faut le dire et le répéter sans cesse, est fait de légitimation. Et que donc chaque choix politique confère une certaine légitimation à l'acte qu'il est censé justifier. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre pourquoi déjà Kakabé est allé aux élections et ensuite pourquoi il hérite un peu de ce portefeuille. Maintenant, ses chances de succès, moi je crois qu'il faut plus ou moins relativiser. Pourquoi il faut relativiser ? Parce que quand même, il y a eu toujours des colères, il y a eu toujours des divergences, il y a eu toujours des dissensions au sein des coalitions et des partis politiques, mais ça n'empêche pas que les acteurs se retrouvent autour de l'essentiel. Je veux illustrer mes propos par le fait qu'il y a pendant la campagne électorale et juste après la proclamation des résultats, vous avez vu qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui avait mis en place un comité de transition en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Oui, CNT, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ces acteurs ont dissous ce comité pour dire que maintenant ils veulent se retrouver dans l'idée de dialogue prônée par le pouvoir. Et donc on peut s'appeler ces pensées, peut-être qu'il y a une pour les acteurs politiques, une prise de conscience qui consiste à faire de telle sorte de se retrouver autour de l'essentiel après des élections peut-être qui auraient dû être beaucoup plus inclusives. Merci. Maintenant pour le ministère confié à Kakabé, moi je trouve quand même que eu égard à ces considérations et le fait par exemple que les acteurs politiques puissent toujours se retrouver autour de l'essentiel malgré les divergences aussi profondes qu'elles soient, et ça peut se vérifier à l'échelle régionale, hein, même ici au Sénégal il y a eu des acteurs politiques dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils se retrouvaient autour d'une table mais qui se sont par la suite retrouvés autour d'un même gouvernement. Et eu égard à cela, bon, on peut considérer Kakabé comme étant capable de réunir quand même une certaine famille.
Merci beaucoup.
Nonobstant le fait, par exemple, qu'il a été aussi membre du PDCI, même si, bon, son départ du PDCI n'a pas été très apprécié, les conditions dans lesquelles il a participé à l'élection.
Merci. Saint-Tiche, avec notre invité.
Oui, docteur Thiam.
Oui.
Un mot sur ce débat politique ?
Oui, je pense que la réconciliation en Côte d'Ivoire est une grande priorité. Et donc le président Alassane Ouattara a certainement raison de nommer une personnalité pour s'occuper de ces questions. Maintenant, pour moi, la personnalité choisie, elle est importante, elle devait être discutée avec les différentes parties. Ça doit être une personne qui doit être acceptée par les différents...
Les différents camps politiques. Donc vous pensez que cela aurait fait l'objet d'une rencontre avec l'opposition pour que le choix soit plus consensuel ?
Oui, oui, ça compte, hein, c'est important parce qu'il faut donner tous les moyens à cette personne pour réussir cette mission qui est pour moi une priorité. Maintenant, je ne sais pas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. D'accord.
On va essayer de voir Kakabé à l'œuvre.
Merci. Saint-Tiche, je voudrais peut-être poser une dernière question à Félix. Alors Félix, madame notre invitée, docteur Thiam vient de dire, on aurait pu attendre, le président Ouattara aurait pu essayer d'obtenir l'assentiment ou l'accord de l'opposition pour choisir la personnalité. Et ça me rend ramène à évoquer le cas de Charles Konan Bani. En son temps, son choix à la tête de la CDVR avait été très contesté par le FPI, mais finalement, il a été maintenu. Est-ce que Kakabé a plus de chances aujourd'hui de réussir que Konan Bani?
Moi, je pense que Kakabé est loin d'avoir la personnalité et le coffre de Charles Konan Bani qui a joué à ce poste. C'est pour dire qu'il faut choisir la bonne personne qui soit la bonne interface entre le pouvoir et les autres acteurs de la réconciliation. Aujourd'hui, comme je le dis, Kakabé n'est pas la bonne interface entre le président Ouattara et les autres acteurs qui sont braqués, quoi qu'on dise, contre Kakabé. Et c'est la raison pour laquelle je suis en droit de lutter de ce que véritablement on va à une réconciliation qui aboutit. Parce que Kakabé aujourd'hui est protagoniste, pas contre Bédier, contre Afinguissan, contre Marie Toiseuse, contre Guillaume, tous ceux qui ne voulaient pas des élections et qui l'ont vu être candidat pour que ces élections se tiennent le 31 octobre.
Est-ce que cette réconciliation passe aussi peut-être nécessairement par une justice équitable? ONG et opposition ont régulièrement dénoncé la justice selon elle partiale comme l'un des freins à la réconciliation.
Moi, je ne réponds pas à la question de la justice qui est très importante. Par contre, lorsqu'on doit aller à la réconciliation, d'autant plus que de part et d'autre, chacun a posé des actes pour faire du tort à l'autre, je pense qu'il faut pouvoir faire table rase sur certaines questions, faire le sacrifice nécessaire pour qu'on puisse se réconcilier, parce que ça fait quand même des décennies que la Côte d'Ivoire est profondément divisée et il faut pouvoir quand même faire table rase sur certaines choses, ne pas réveiller les vieux démons.
Merci beaucoup, Félix. Liliane, nous passons au dernier sujet. Alors.
Sans transition.
Oui, bien sûr, sans transition. Alors, il y a eu des attaques sur des villages au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ou encore des tueries dans des écoles au Cameroun. Et récemment, ce kidnapping de plus d'une centaine d'élèves au Nigeria, des élèves qui ont été libérés ce jeudi, selon les autorités nigérianes. L'Afrique n'a donc pas été moins meurtrie par les attaques terroristes en 2020, et malgré cette pandémie de Covid-19, la menace terroriste est toujours aussi présente et accrue et elle laisse craindre une année 2021 encore plus meurtrière. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a reconnu dernièrement d'ailleurs que la violence n'a pas baissé sur le continent et les armes parlent toujours selon ses propres mots. René Massiga, vous êtes journaliste, vous êtes docteur en sciences politiques, analyste politique également, spécialiste de l'Afrique. Dites-nous un peu, René. Moi, je voudrais déjà avoir votre analyse sur ces dernières attaques qui ont ciblé principalement des écoles, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun.
Oui, il faut dire que c'est le mode opératoire qui est pratiquement connu et qui porte la marque de Boko Haram. C'est en fait un mouvement qui non seulement se structure, mais innove de plus en plus dans ses actions. Boko Haram sort de plus en plus du camp traditionnel en termes d'attaque, en termes de coups, en termes, en tout cas d'actions qui puissent permettre quand même que le mouvement puisse avoir l'aura souhaitée. On l'a vu, c'est pas nouveau ce qui s'est passé dernièrement. En 2014, on se souvient de ce qui s'est passé à Chibok. On se souvient aussi que entre 2010 et 2012 également, il y a eu des attaques, peut-être de moindre envergure, parce qu'il n'y avait pas de jeunes écoliers, ou bien en tout cas de jeunes innocents qui étaient pris en otage. Mais toujours est-il qu'il y a eu des actions d'envergure qui ont permis un peu au mouvement de se positionner. Et c'est ça la marque de fabrique d'un mouvement comme Boko Haram.
Alors, après toutes ces années, vous avez cité l'attaque sur l'enlèvement des lycéennes à Chibok en 2014 et toutes les autres attaques qui ont suivi. Nous sommes en 2020. Comment est-ce que les gouvernements, que ce soit le gouvernement nigérian, que ce soit les autres gouvernements de la sous-région sahélienne, comment est-ce que ces gouvernements n'arrivent toujours pas à faire face à cette attaque, notamment sur les écoles, ce qui hypothèque en fait l'avenir des enfants?
Oui, moi je crois que en termes de priorité et de ciblage même sécuritaire, les écoles ne sont pas classées au premier niveau en fait. Les écoles ne sont pas classées au premier niveau. Souvent, l'arsenal sécuritaire mis en place intervient juste en termes de prévention ou bien en termes de post-attaque, souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire après les attaques? En termes de prévention, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'une attaque ne se reproduise pas? Donc, je crois que, généralement, ils sont dans ça, à travers des mécanismes qui sont mis en place, le G5 Sahel et d'autres mécanismes internationaux, nationaux et régionaux. Mais il faut aussi dire que les mouvements connaissent à la lettre le type d'intervention le plus à même de leur permettre de faire face à une situation donnée. Ce ne sont pas seulement des mouvements ou bien des groupes qui restent les bras croisés en train de regarder, par exemple, ces mécanismes poser des jalons d'une lutte qui peut leur permettre un peu de perte de leur influence. Et c'est ça le problème. Et il faut aussi faire le constat que l'éventail même du djihadisme en Afrique de l'Ouest est en train de s'élargir. On disait il y a quelques années que c'est venu de la Libye, mais on s'est rendu compte que ça ne s'est pas seulement arrêté du fait qu'il y ait des acteurs qui viennent de la Libye, mais aussi des frontières poreuses. De plus en plus, on pose l'hypothèse qu'il y a des djihadistes qui sont venus de Syrie, d'autres qui sont venus d'Irak, chassés par la coalition internationale et la Russie notamment. Oui, et la
Félix, est-ce que on ne peut pas aussi avoir le sentiment que Boko Haram, en ciblant les élèves, est en panne d'effectifs? Est-ce que le fait d'avoir enlevé ces jeunes garçons n'est pas une preuve peut-être qu'il veut renforcer ses rangs et multiplier les attaques kamikazes dans les mois ou années à venir?
Évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un vivier que Boko Haram recherche. Mais également aussi, Boko Haram, qui a depuis un moment ne peut plus parler de lui, avait besoin également de marquer également le coup pour faire un peu de communication, pour marquer encore sa présence, pour dire que nous existons bel et bien. C'est vrai que vous avez l'impression qu'on est affaibli, mais on est bel et bien présent. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces aspects et surtout éviter que des jeunes ne soient impliqués dans cette affaire pour que ça continue de pouvoir préparer la génération de la relève de tenants de ce groupe qui maintient ce kiff dans notre sous-région.
Merci. Notre invité, madame, comment analysez-vous la libération dans un délai relativement court de ces jeunes élèves? Et les autorités n'ont pas non plus beaucoup communiqué sur les conditions de la libération de ces adolescents?
Je voudrais déjà exprimer mon soulagement après la libération de ces élèves dans le nord-ouest du Nigeria. Et je voudrais aussi dire que l'enlèvement des lycéennes en 2014 est une plaie qui est toujours ouverte dans
les lycéennes de Chibok.
Je pense que les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais il faut absolument faire taire les armes dans cette partie de l'Afrique. Et pour moi, si le prix à payer pour la paix, c'est de discuter avec les groupes armés, il faut le faire. Les gouvernements...
Vous pensez peut-être que les autorités nigériennes ont discuté avec les Boko Haram pour parvenir à ce résultat?
Je pense qu'il faut certainement une stratégie sécuritaire concertée. Ce n'est pas seulement le gouvernement du Nigeria. Mais vous avez parlé aussi du Burkina, du nord du Mali. Il y a vraiment des attaques un peu partout et il faudrait pour moi en tout cas une stratégie sécuritaire solide pour faire face. Et cette réponse doit inclure les populations locales et aussi la lutte contre la pauvreté. Je pense qu'il est la base de tout ça.
Rapidement, une dernière question pour René, justement sur cette option du dialogue. Au Mali, ça se dessine un peu plus, ça devient peut-être une option évidente, mais est-ce que cela pourrait être appliqué justement dans d'autres pays et avec Boko Haram? Est-ce qu'on peut dialoguer avec Boko Haram, par exemple?
Très vite, René, s'il vous plaît.
Avec Boko Haram, ça va être extrêmement compliqué que le gouvernement soit en dialogue avec ce mouvement qui est très radical. On se rappelle que leurs principales actions sont fondées sur le rejet quasiment symbole de l'État. Et donc dans ces conditions, comment trouver une feuille de route qui puisse permettre d'asseoir le dialogue avec le mouvement? Donc c'est un mouvement qui est composé de radicaux. Ensuite, le mouvement ne se gouverne plus en toute autonomie. On rappelle son affiliation à l'État islamique. Et ensuite, il y a des factions, il y a quand même deux factions déjà, mais à l'interne même de ces factions, il y a eu des divisions. Et dans l'une des factions, c'est même difficile de trouver une personnalité qui puisse...
Des interlocuteurs.
voilà, des interlocuteurs qui puissent assurer le leadership du mouvement. Et donc, face à ces conditions, c'est très difficile pour un mouvement comme Boko Haram de dialoguer avec le pouvoir central.
Merci beaucoup, René. Liliane.
Oui, Saint-Yves, c'est le moment d'écouter les questions et réactions de nos auditeurs sur la page Facebook avec Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. L'Afrique face à la deuxième vague du coronavirus, Beriama Sana affirme que les Africains doivent tout simplement continuer à respecter les mesures barrières. De son côté, Charles Bazema estime que les autorités sont en partie responsables de cette situation car elles ne donnent pas suffisamment l'exemple du respect strict des gestes barrières. Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire pour Jean Zoumon. Le président Ouattara est le seul à détenir la clé d'une véritable réconciliation nationale et cela passe par une amnistie générale et une libération de tous les prisonniers politiques, de même que le retour au pays des exilés. Barma Vincent, quant à lui, pense que la nomination de Kwadio Konan Bertin, alias Kakabé, comme ministre de la réconciliation nationale est une insulte à l'opposition. Enlèvement de lycéens au Niger. Okan Alba Tchala pense que seul le dialogue peut résoudre le problème de Boko Haram. Pour lui, il faudrait trouver des moyens de négociation pour garantir la sécurité des populations, la paix et la stabilité de nos pays. Bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier. Docteur Thiam, une réponse globale à ces questions. Il y a un auditeur qui dit que les autorités ne sont pas exemplaires en matière de respect de gestes barrières.
Ils ont certainement leur raison. Ce que je dois dire, c'est que c'est difficile pour les populations de vivre confinées, le respect des gestes barrières en Afrique. C'est très compliqué, mais c'est la voie à suivre pour éviter cette pandémie en attendant le vaccin qui n'est pas pour demain la veille en Afrique, qui est très, très hypothétique parce qu'il faut des ressources pour avoir le vaccin. Et moi, j'attends de voir ces ressources. Donc, en attendant, on respecte les gestes barrières.
Et que les autorités donnent l'exemple. Merci beaucoup à vous, docteur Safietou Thiam, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez notre grand témoin cette semaine. Vous êtes secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre le sida et ancienne ministre sénégalaise de la Santé. Merci à vous, Félix Bonny, journaliste et éditorialiste en Côte d'Ivoire. René Massiga Diouf, journaliste et docteur en sciences politiques à Dakar au Sénégal. Réalisation à Paris, Hugo Vallière. À Dakar, Abdou Diop, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Votre émission est à écouter ou réécouter sur nos deux sites internet, bbcafrique.com et africaradio.com. Et vos commentaires sont attendus sur facebook.com/débat BBC Africa. Saint-Tiche, c'est la dernière émission de l'année sous le format habituel et le 26 décembre prochain, de même que le 2 janvier 2021, format différent. Et on vous retrouve le 9 janvier 2021. Meilleurs vœux 2021 à vous, Saint-Tiche. Excellente fête à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup, Liliane. Que souhaiter à nos auditeurs, sinon la santé pour que nous puissions vivre encore d'autres belles émissions. Et j'attends mon cadeau, Liliane. Vous l'avez
promis. Je vous l'enverrai. Il est en route, Saint-Tiche, mon tartempté. C'était un plaisir et à l'année prochaine.